Ah, je suis un peu rassuré. Mais savez-vous que les premiers chrétiens n'ont jamais dit qu'ils étaient chrétiens, parce que le mot n'existait pas. Par contre, ils parlaient toujours du Messie, parce que c'était des Juifs en Judée, et puis les Juifs attendaient le Messie. Et petit à petit, des Juifs ont réalisé, mais le Messie, c'est Jésus. Et quand il est mort sur la croix et ressuscité, il y a eu vraiment des milliers de Juifs qui ont réalisé ça. Et autour d'eux, ils disaient, mais le Messie, on le connaît, c'est Jésus, celui qui a été crucifié. Et à force d'en parler, j'allais dire les non-chrétiens, ceux qui n'étaient pas convaincus du tout de la chose, ils ont dit, oh, mais toujours ces gens-là, Jésus le Messie, Jésus le Messie, c'est des messiens. Ils se sont dit, voilà, les messiens. C'est comme ça qu'ils parlaient. Bon, ils ne parlaient pas en français, hein, ils parlaient en araméen. Et puis en grec, Messie, c'est Christ, c'est des chrétiens. Et de là est venu le mot chrétien. Et c'est pour ça que dans la Bible, on trouve peut-être que trois fois le mot chrétien. Et je dirais directement ou indirectement dans la bouche de non-chrétiens. Voilà comment est né le mot chrétien qui aujourd'hui a autant de succès. Et Jésus, quand un jour, après, j'attends peu avant de partir au ciel, il avait ses amis qui étaient là et il les a envoyés. Il a dit, jusqu'à présent, j'étais là pour les Juifs, mais maintenant, allez et faites de toutes les nations des chrétiens, non, des disciples. Voilà. Je vais voir si je retrouve mes notes, hein, comme ça, ça peut aider. Et disciple, c'est toujours intéressant d'aller prendre le mot dans le texte d'origine, qui était en grec, là, et puis disciple, mathétès, vient de matando, le verbe matano, bon, peut-être pas mal prononcé. Et si on regarde que veut dire matano, ça veut dire apprendre, recevoir, s'instruire, recevoir un enseignement, étudier. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui écoute un enseignement. Voilà ce que c'est un disciple. Et on va relire Matthieu 28, 19. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez ce lien entre vous faites des disciples, mais des disciples pourquoi ? Pour être enseignés. Ça, c'est un disciple qui se laisse enseigner pour mettre en pratique. Et puis, on voit aussi dans Matthieu, à un moment donné, ça c'était au début de son ministère, on lit, à la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. On voit que Jésus, il s'asseye et il enseigne. Si on regarde un peu de manière générale, on voit que peu avant, Jésus avait prêché. Et on se rend compte dans la Bible, on trouve ces deux termes, prêcher ou annoncer la bonne nouvelle et enseigner. Comme si ces deux aspects qui donnent l'équilibre dans notre vie. Prêcher, c'est lorsque Jésus se mettait devant une foule et puis annonçait vraiment l'espérance. Quand on dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos », ça c'est de la prédication. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est la bonne nouvelle, ça c'est la prédication. J'allais dire « mais », il ne faut pas dire « mais ». Et d'un autre côté, il enseignait. Voilà, et c'est ça que j'aimerais amener ce matin. Est-ce qu'il y a dans la salle des disciples ? Hein, oui. C'est bien. Alors, si on veut être disciple, comment est-ce que vous faites ? Puisque être disciple, c'est écouter l'enseignement. Celui qui n'aura aucun enseignement, qui n'entend aucun enseignement, bah, il n'est pas disciple. Pour être disciple, il faut être enseigné. Alors, je pense que assez simplement, on peut dire, eh bien, par exemple, la Bible, la lecture de la Bible. C'est là qu'on va retrouver les enseignements de Jésus. Même dans Matthieu 5, je vous disais, si vous lisez les trois chapitres, vous aurez un aperçu de tout ce que Jésus a enseigné. Et donc, si on est disciple, en lisant la Bible, eh bien, on est disciple. Peut-être quelqu'un dira, oui, mais bon, ou attendez, on va venir. Je vais d'abord citer Jean-Marc Taubois. Il dit, or, un des grands problèmes actuels, c'est que les chrétiens ne lisent plus et n'étudient plus la Bible, contrairement à ce qui se passait il y a encore 50 ans. Hein. Je crois qu'on peut se souvenir, les âgés, c'est vrai que la lecture de la Bible était presque plus courante, je crois, qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, avant, je vous ai demandé si vous êtes disciple, tout le monde a dit oui, donc je pense que vous lisez la Bible. Il y a aussi des programmes de lecture. Mais peut-être que quelqu'un dira, oui, mais moi, je lis pas trop la Bible, mais j'ai des bons livres d'enseignement. Pourquoi pas? Il en existe, des bons livres d'enseignement. Un autre dira, oui, mais moi, je suis pas un lecteur, mais j'écoute ou je regarde des enseignements sur YouTube. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a des bons enseignements. Mais là, je donnerai un conseil. C'est d'être comme les chrétiens de Bérée. Vous savez, vous les connaissez, les chrétiens de Bérée. Quand Paul est venu puis il leur a annoncé l'évangile, ils étaient enthousiastes. Hein. Donc, nous, comme nous, on pourrait être enthousiastes si on entend quelque chose ou qu'on lit quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, ce n'est pas mauvais d'écouter d'autres choses, mais il faut toujours se dire, mais est-ce que ça correspond à la Bible? Donc, moralité, ça vaut vraiment la peine de lire la Bible. J'ai aussi pensé hier soir, je me suis dit, je vais vous lire un petit passage d'un bouquin qui s'appelle « Les versets oubliés », Jean-Claude Chablot. C'est un petit peu son testament. Donc, c'est un livre ici, c'est pas la Bible, hein, mais c'est quand même bien. Et puis, il écrit, à un moment donné, en même temps, l'étude biblique a quasiment disparu du programme hebdomadaire des églises. Donc, on ne parle pas de notre église, on parle de manière générale, il faut reconnaître. Hein. Et le catéchisme n'est plus ce qu'il était, il vise davantage à sensibiliser et à donner envie qu'à transmettre en bonne et due forme, et comme à l'école, les doctrines chrétiennes principales. Comme à l'école, voilà. Un disciple, c'est quelqu'un qui est comme à l'école. Hein. C'est à la fois une cause et une conséquence du recul de la culture biblique. Parfois, la prédication dominicale est tout ce que les fidèles auront comme enseignement. Il y a des gens, ils viennent au culte, ils entendent le message, ben oui, je suis en train de donner un message, et c'est tout. C'est la raison pour laquelle, donc ça c'est Chablot qui dit, c'est la raison pour laquelle j'enseigne toujours un peu quand je prêche. Après, je vais un petit peu enseigner aussi. Je vais faire comme Chablot. Et puis, encore autre chose intéressante, il dit, longtemps, les fidèles venaient au culte Bible à la main. Il y a eu une période où ils sont venus les mains vides. Pour les anciens, on se dit, ouais, c'est juste. Puis sont arrivés les téléphones portables. Ah, les fidèles, aujourd'hui, ont tous la Bible format électronique sur leur portable. L'ouvrent-ils pour autant? L'ouvre-t-il au risque d'être bombardé de pubs et de notifications, sollicitations, rendez-vous? Je vous laisse répondre. C'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, même le texte biblique est affiché. Comme ça, les gens ne sont pas tentés de prendre leur téléphone et d'être dérangés. Voilà, hein, tu as l'air de confirmer, Raphaël, je vois. Elle est où ta Bible? Bravo. Je savais. Il y en a au moins un qui a la Bible. Voilà. Ben, moi, je suis un grand consommateur de portables pour la Bible. J'ai plusieurs applications, j'ai notamment la Bible interlinéaire. Donc, pour moi, je le dis, c'est très précieux, les applications. Mais à la maison, j'ai aussi ma collection de Bibles, Bibles d'études, papier, parce qu'on peut souligner et on peut mieux s'en souvenir. Mais puisqu'on parle de smartphone, je vais prendre mon smartphone. Ben oui, quoi. Mais je ne vais pas vous lire la Bible, je vais vous lire autre chose. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais il y a eu un petit renouvellement dans l'aspect visuel de la page Internet de notre Église. Et puis, je ne me souviens plus exactement ce qui était écrit avant, mais je vous lis ce qui est écrit maintenant. L'église évangélique de réveil de Bienne est une église multiculturelle et familiale pour vivre l'évangile en communauté. Donc, comme ça, si quelqu'un s'intéresse à notre église ou cherche, il va lire ça, puis il aura déjà un petit peu notre style. Hein, et ça joue. Puis ensuite, grandir dans sa foi, donc le but de l'église, c'est pour grandir dans sa foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est vrai. Et puis, je dirais, c'est ça, être chrétien. C'est croire, celui qui croit que Jésus est le Messie, il est chrétien. Même si c'est un mot qui a été inventé peut-être par des non-chrétiens, ça nous convient très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est l'objectif de notre Église. Virgule, à étudier la parole. Le but de notre Église, c'est aussi d'étudier la parole. Et puis, dans ce sens-là, Jean-François, il y a déjà quelques temps, peut-être même quelques années, il a eu à cœur, mais peut-être plus qu'à cœur, mais il s'est senti appelé. Il a répondu pour dire, allez, dans notre église, comme c'était mis là pour Chablot, où finalement il y a de moins en moins d'études bibliques dans les églises, eh bien, on va relancer ça, redonner la possibilité de le faire. Donc, pour dire, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire, on veut aussi étudier la parole. Bien, ça c'était la première partie ou l'introduction, je ne sais pas. Et puis maintenant, on va passer à autre chose. Qui sait quel est le thème de ce matin, à part ceux qui sont dans le conseil des dieux? Qui sait quel va être le message, l'enseignement que je vais vous donner ce matin? Si vous aviez eu l'occasion justement de voir le site, vous auriez vu que dimanche 22 mai, culte avec Jean-Paul Conrad, que dit Jésus à propos de l'argent? On aurait aussi pu mettre « Qu'enseigne Jésus à propos de l'argent ?» Et ça, c'est le thème. J'aimerais donner un enseignement, enfin, pas donner, c'est pas moi, j'aimerais reprendre l'enseignement de Jésus et le partager avec vous. Des fois, on dit l'argent, c'est un peu un sujet tabou. Et puis, dans d'autres églises, c'est un sujet permanent. Voilà, nous, on est plutôt du genre à être discret. Mais on va en parler ce matin. Bien, je vais reposer mon smartphone, hein, parce que sinon il va me déranger. Et on va prendre la Bible, la vraie, le papier. Bon, juste un ou deux versets après, je prendrai mon papier que j'ai imprimé. Ouais. Alors, pour voir qu'est-ce que Jésus enseigne sur l'argent, en fait, il faut prendre les pages dans la Bible qui concernent Jésus. Et c'est les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais comme Jésus a dit ensuite aux apôtres, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, en fait, ce que les apôtres ont enseigné par rapport à l'argent, c'est toujours l'enseignement de Jésus. Hein, on est bien d'accord. Donc, si je prends le Matthieu, qui est le premier livre du Nouveau Testament, en fait, on va faire une exception ce matin. On tourne une page en arrière, et puis on arrive au dernier livre de l'Ancien Testament, qui est de Malachie. Et puis, je veux prendre ce texte qui est très fort et qui est aussi relativement bien connu. Alors, juste pour situer, Malachie, c'était... Après que les Juifs aient été dispersés, parce que Dieu les avait laissés tomber, mais il les a ramenés sur leur terre, ils ont reconstruit leur maison et aussi le temple. Et puis là, il y a eu un dialogue entre Dieu et son peuple qui est reporté par Malachie. Et Dieu dit « Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Donc c'est dans Malachie 3, 6, oui. Par là autour. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous dites, mais en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et un peu plus loin, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel en abondance. Non, les fenêtres du ciel, si je ne déverse pour vous la bénédiction en abondance. Ce texte est connu. Deux choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, de croyants, qui ont vu ce texte, qui l'ont lu, et qui, volontairement, avec joie, se sont dit, mais là, on va s'inspirer de ça pour notre budget, et puis consacrer la dîme, ça veut dire 10%, mais ça peut être moins, et puis dire, on va le consacrer, soit à le donner à notre église, ou à d'autres œuvres, etc. Donc, on voit que beaucoup le font, et puis même certains témoignent en disant qu'ils en sentent une bénédiction, ils se sentent bien, ils avaient même des soucis avant, puis ils en ont moins après. Donc ça, je l'ai entendu, et j'aimerais honorer ces gens-là et surtout pas les critiquer. Cependant, je prends maintenant une distance avec autre chose. Parce qu'il y a un enseignement qui est donné, qui dit le 10% de vos revenus, ce n'est pas à vous cet argent, ça appartient à Dieu. Paf. Et puis, le reste, c'est des offrandes. Si vous voulez être béni, voilà. Et moi, je prends des distances par rapport à ça. Je pense qu'on n'est pas dans le juste. Dans notre église, on n'enseigne non plus pas ça. Et pourquoi, je dirais, si je devais donner un argument, je vais vous dire tout simplement parce que Jésus n'enseigne jamais la dîme. C'est aussi simple que ça. Puis on va dire, oui, mais c'est quand même valable. Jésus n'est pas venu pour abolir les choses. Il est venu pour l'accomplir, pour les expliquer, pour venir avec l'esprit. Il a dit, vous avez appris, mais moi, je vous dis. Alors, il n'a pas parlé spécifiquement de ce texte en disant, vous avez appris, moi, je vous dis. Mais il a dit des choses. Et ce matin, c'est ça que j'aimerais présenter. J'espère ne choquer personne. Mais prenons ça. Alors, une fois, ça fait un peu plus d'une année, j'ai, en vitesse, par curiosité, je me suis dit, allez, je vais une fois potasser tout ce Nouveau Testament, en vitesse, en regardant seulement les titres, puis j'ai noté tous les passages où il était parlé d'argent. Et puis ensuite, je les ai mis sur une feuille Excel, j'ai trié, j'ai un petit peu mis, j'ai regroupé, et puis j'ai, voilà d'ailleurs, j'ai cette feuille là-dessus, où finalement on voit qu'il y a un tiers peut-être de ces passages que Jésus enseigne ou que les apôtres enseignent, où déjà c'est une mise en garde. Attention, l'argent, attention. Il y a aussi la manière, comment est-ce qu'on doit être, comment est-ce qu'on fait avec l'argent. Voilà, ça c'est un tiers. Et puis les deux autres tiers, c'est à qui donner l'argent. Et on va voir ça, hein. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire la collecte après mon message. La première chose, je pense qu'on pourrait même mettre un titre, mais ça, il faut le savoir. Donc, je reviens toujours à ça, nous sommes disciples de Jésus et nous écoutons son enseignement. Qu'est-ce que Jésus dit ? Il dit, Matthieu 6, 24, « Personne ne peut servir de maître, car où il détestera le premier et aimera le second, » où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il y a d'autres versions qui disent Dieu et Mammon, parce que Mammon, c'est un mot araméen qui est en lien avec la richesse ou avec un Dieu de la richesse, mais c'est très clair. Dieu, Jésus nous dit, attention, attention, effectivement, l'argent peut être un maître. D'ailleurs, on connaît tous l'adage, comment est-ce qu'on dit ça ? L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Hein. Oui, c'est-à-dire on doit en faire un serviteur. Mais ce n'est pas lui qui doit nous diriger. Ça, c'est un premier point que Jésus a dit. Autre chose, il a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Votre or, plus loin, ça c'est Jacques 1, 5, 3, votre or et votre argent sont rouillés, et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme le feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. J'ai toujours été un peu étonné de voir qu'il y a un certain enseignement qui est donné parmi les chrétiens qui disent que bon, ben justement, les dollars, le franc suisse, toutes ces monnaies, c'est du vent, ce qui est vrai. Que la monnaie de Dieu, c'est l'argent et l'or, c'est divin. C'est vrai que si Il y a 3000 ans, un de vos ancêtres avait eu de l'or, puis qu'il l'avait passé à son fils, et ainsi de suite. Aujourd'hui, vous restez, vous pourrez toujours acheter quelque chose avec le même or comme vous l'auriez fait il y a 3000 ans. C'est vrai que c'est impressionnant. L'or, c'est une monnaie qui passe avec des fluctuations, mais qui est là. Mais pourtant, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « ça rouille aussi, ça disparaît aussi ». Donc voilà, ça c'est une mise en garde. Et puis 1 Timothée 6, 10, l'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. Ce n'est pas seulement un proverbe qu'on dit, c'est l'enseignement de Jésus qui nous dit ça. C'est clair, moi en étant à la banque, j'ai croisé beaucoup de gens, mais pas que des riches, hein. Des fois, c'est vrai, on me regarde un peu de travers quand je dis je travaille à la banque. On dit ouais, bon, c'est pas très bien. Seulement, si vous n'avez pas de compte en banque et puis ni à la poste, vous pouvez me regarder de travers. Mais si vous avez un compte à la poste ou à la banque, voilà. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de rencontrer les gens parce qu'il y a de tout. Et effectivement, il y a des gens qui sont vraiment attachés. Et je me souviens d'un directeur qui était à la retraite. Et puis qui m'expliquait son programme, il a fait tout un programme pour la suite de sa retraite, où chaque année ou tous les deux ans, il y avait une assurance qui arrivait à échéance, il recevait 100 000 francs. Voilà, donc il avait de toute façon tout ce qu'il fallait pour vivre, mais en plus il recevait de l'argent et il avait planifié jusqu'à l'âge de 100 ans. Il y avait toujours de l'argent qui tombait. Bon, mais il est mort 3 ans après, donc il n'a pas vu son argent. Oui, oui. J'attends, il y a des histoires comme ça. Mais j'ai aussi vu des gens très humbles. Hein. Et puis, une fois, j'ai des clients, ils me disent, Monsieur Conrad, j'aimerais vous remercier. Bon, du coup, bon, je n'ai rien fait. Il me dit, oui, vous nous avez rendu attentifs. Effectivement, c'était des gens du voyage, comme il le disait, des Roms. Comment est-ce des Roms, des gens de Suisse, des Suisses, hein. Comment est-ce qu'ils peuvent être clients de la banque? Ben simplement parce qu'ils avaient une fois acheté avec quelques milliers de francs, on leur avait fait une hypothèque pour acheter un petit appartement de rien du tout, et dans ce sens-là, ben, ils étaient clients. Et puis moi, j'avais réalisé qu'ils avaient peu de revenus, puis j'aurais dit, non mais écoutez, il faut aller voir pour les complémentaires. Vous pouvez vous annoncer, vous dites votre situation. Puis effectivement, il me dit, Monsieur Conrad, on vous remercie parce que grâce à vous, on a des complémentaires. Voilà, donc il y a les extrêmes, donc il ne faut pas croire que tous ceux qui ont de l'argent, voilà. Maintenant, on va dire, Jésus incite à donner, parce que finalement, comment ne pas être sous l'emprise de l'argent, c'est d'être aussi généreux, c'est de partager. Celui qui garde tout pour lui, c'est là que c'est un petit peu problématique. Et puis le premier texte que j'ai choisi, c'est celui-là. 1 Timothée 6, 17. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans Dieu, dans le Dieu vivant, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres ou en bonnes œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir afin de saisir la vie éternelle. C'est Jésus qui dit ça. Est-ce qu'il y a des riches parmi nous? Désolé, je me suis fatigué pour rien. Il n'y a pas de riches, ça ne nous concerne pas. On est toujours le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un, on le sait. Mais pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que j'aimerais vous montrer une chose. C'est que Jésus, il ne donne pas les mêmes paroles à tout le monde. C'est-à-dire, il y a des riches et il y a des pauvres. Et Jésus fait cette nuance. Il ne faut pas croire que crac, boum, tes disciples, alors c'est comme ci, comme ça, non. Aux riches, ordonne même, dis-leur, tu veux être disciple? Voilà. Et puisque je parlais de banque avant, j'en parle encore une fois. Un jour, j'ai eu un client, ce n'était pas mon client directement, mais je l'ai réceptionné et il était très riche. Pourquoi était-il riche? Parce qu'il avait accumulé, puis fait de la spéculation? Pas du tout. C'était un homme très simple, un homme du terrain. Et puis c'était un mécanicien. Mais voilà, que Dieu lui avait donné de l'intelligence. Et il a fait un tas d'inventions. Et ces inventions lui ont rapporté en argent. Mais lui, il ne faisait pas ça pour l'argent. C'était sa force. Et cet homme, quand il est venu vers moi, bon, je le situe un peu, il n'est pas venu pour faire des placements. Il est venu pour me donner des ordres de paiement pour l'Afrique, pour donner. C'était un riche qui donnait, et je sais qu'il donnait aussi dans son église. Voilà, ça, c'est, lui, c'était clair. Donc Dieu n'est pas contre la richesse, mais c'est super, voilà, pour cet homme d'avoir fait. Voilà, je vous donne encore un autre exemple. Je coach un homme qui est à l'AI. Et puis, non seulement il est à l'AI, mais il y a les complémentaires, parce qu'il n'a pas d'argent pour vivre. Et puis, je vais juste un petit peu pour faire des paiements. Et puis, j'ai vu... Oui, justement, ça, c'est le genre de personne qui finit chaque mois avec moins 1000 francs sur son compte. Parce que la poste, on peut descendre à moins 1000. Alors, il finissait avec moins 1000. On recommence chaque fois. Et dans ces paiements, j'ai vu qu'il y avait un paiement pour compassion, pour les enfants. Et puis, moi, je lui ai dit, mais tu sais, t'es pas obligé de donner pour... Parce que toi-même, tu en as besoin. Quand quelqu'un a besoin, et s'il a des complémentaires, il ne doit pas. Mais lui, il voulait quand même. Alors ça, c'est son choix. C'était un pauvre, mais ça, il n'était pas chrétien. Il n'est pas chrétien, mais c'est un pauvre. Mais ça, il veut le faire. Voilà, ça montre la liberté, mais exclu de mettre pression sur des gens qu'on doit déjà aider. Vous voyez, ça, c'est pour ça que j'ai pris ce verset. Il y a les riches, puis il y a les moins riches quand même. Hein. Voilà, maintenant, à qui donner? D'après les enseignements de Jésus. Je suis toujours là. Hein. Et puis, est-ce que je vous dis directement le résultat? Non, je vous dis pas le résultat. J'ai un, deux, trois groupes, enfin bon, bref. Mais d'abord, on n'y pense pas. Ça va, qui Jésus nous dit de donner de l'argent? Aux familles. Donc il y a peu de versets, mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Et là, il faut voir le contexte. Le contexte, c'est qu'il y avait des veuves qui étaient pauvres, parce qu'il n'y avait pas un système social comme nous. Et Paul, il leur dit, l'enseignement de Jésus, hey, d'abord tu t'occupes de ta famille. Et puis si on a les parents, mais ça peut être les enfants, ça peut être des frères. Donc, ne pas tout garder pour soi, c'est pas forcément donner tout à l'église. C'est donner à sa famille en premier. Il y a aussi cet autre texte qui est très fort. Mais donc c'est Jésus qui fait un reproche à des religieux. Il dit, d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, oh, ce dont j'aurais pu t'assister, c'est une offrande à Dieu, donc on peut le donner à Dieu. Ils disent qu'il n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère, parce que c'est pour Dieu. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et tac. Et donc, j'ai vu ces deux versets, je me suis dit, ouais, c'est intéressant. On doit aussi avoir un œil autour de nous, même si en Suisse, pour beaucoup, il y a un système social qui fonctionne. Voilà. Deuxième groupe, à qui donner de l'argent? Aux anciens. Bah ouais. 1 Timothée 5, 17, que les anciens, donc les anciens, pas les vieux, mais les anciens qui sont leaders responsables dans l'Église, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Donc si on prend le contexte, quand on parle d'honneur, c'est des honoraires, on peut dire. Hein. Et puis il est dit que les anciens qui dirigent bien. Alors bien sûr, je crois que c'est assez évident, un ancien, mais qui a un revenu, qui a une rente, ou j'entends, c'est pas de ça qu'on parle. Mais si un ancien, notamment un enseignant, finalement a renoncé à son métier ou n'a pas d'activité économique, eh bien, oui, on se doit, on peut donner raisonnablement, partager finalement. Alors maintenant, c'est clair qu'à l'époque, peut-être qu'il donnait directement à l'ancien, à la personne. Mais seulement, nous, on est dans une société avec association, système salarial, etc. Mais le principe est là. C'est aussi mis, Galates 6, 6, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et puis, finalement, même Jésus, il disait à ses disciples, ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne. Donc, il les avait envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, hein. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez. ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. On ne savait pas que Jésus était socialiste, hein, puis que l'ouvrier mérite son salaire. Ben oui, c'est Jésus qui a dit ça bien avant tout le monde. N'allez pas de maison. Enfin voilà, l'ouvrier mérite son salaire. Voilà, mais il y a peu quand même d'enseignements directs par rapport à ça. Il n'y a même rien pour l'Église. Ils ne disent pas donner à l'Église et tout. Bon, c'était organisé autrement, mais c'est quand même intéressant de constater ça. Et puis Paul, c'est l'homme qui a tout quitté. Un jour, on lui a dit, OK, on reconnaît pour toi, tu es un évangéliste, tu peux partir. En Asie mineure, etc. Et il n'y avait plus de contact. Vas-y, que Dieu te bénisse. Mais il allait les mains vides. Mais ils lui ont quand même dit, tu te souviendras des pauvres de Jérusalem, si jamais, pour ne pas nous laisser. Donc il est parti. Et Paul, pour lui, il aurait vraiment mérité à ce qu'on le soutienne régulièrement. Mais jamais, jamais, il l'a dit, jamais. Au contraire, il allait vers les Corinthiens, qui était une église quand même assez grande, et il leur a dit, en tout, je me suis bien gardé des travaux de charge et je m'en garderai encore. Il aurait eu droit à dire, j'ai droit à avoir une rémunération. Mais il ne voulait pas, de peur de les choquer, de peur de les mettre sous pression. C'est quand même intéressant, hein. Et puis, il dit, vous le savez, vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Voilà, donc ça montre aussi son attitude. Donc voilà pour ce qui est, j'allais dire, la famille, les églises. Mais le gros morceau, c'est les pauvres. Et puis, regardez, Jésus, bon, il a rencontré une fois quelqu'un qui demandait, mais qu'est-ce que je dois faire? Puis pour finir, il lui a dit, bon, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. De nouveau là, on voit une parole qui est donnée à Jésus à une personne déterminée qui avait un problème, et puis Jésus lui dit, tac, mais... Je crois qu'on est tous d'accord que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Enfin, si vous pensez que ça s'adresse à tout le monde, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire demain. Hein. Donc, je crois qu'on comprend que c'est quand même individuel. Hein. Et d'ailleurs, à ce sujet, je dis de tête, cette anecdote, Pierre Valdo, c'est un évangéliste, mais de l'an 1200, 1300, c'est vieux. Et puis je crois qu'il était colporteur qui colportait des Bibles, mais manuscrites, hein, pour promouvoir l'enseignement. Et puis là, c'était sauf erreur à Lyon, il s'est retrouvé devant un gars qui mendiait, un mendiant. Parce que des mendiants, il y en a toujours eu, des pauvres, il y en a toujours eu. Et puis il mendiait, et là, il a pris sa bourse et il lui a donné ce qu'il avait dans sa bourse à ce mendiant. Puis ensuite, il l'a regardé dans les yeux, il lui a dit, mais tu sais quoi, toi? Toi, pauvre, mendiant, t'es plus riche que moi. Il avait tout donné. Donc, il y a eu des gens extraordinaires. Hein. Voilà. Que celui qui volait cesse de voler. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de voleurs ici. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains. Pourquoi ? Pour donner la dîme à l'église. Non. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et c'est vrai que c'est touchant de voir, il y a une jeune dame... Qui accompagne Philippe de Courroux, et puis qui a été malade pendant des années, droguée, comment est-ce qu'on appelle ça, en clinique psychiatrique, et qui était au fond, donc inutile de dire qu'elle était à la IO complémentaire et sans espérance. Et voilà qu'il y a eu un miracle. Elle s'en est sortie. Elle a repris vie. Et déjà, à un certain âge, elle a commencé un apprentissage. Et vous savez ce qu'elle dit, cette fille ? Elle dit, je me réjouis d'avoir un revenu et de pouvoir payer des impôts. Vous imaginez ? Quelqu'un qui a tellement souffert, qui a été, disons, qui a été soutenu, elle... Parce que les impôts, bien sûr, on n'aime pas les impôts, mais à quelque part, c'est aussi pour une certaine justice, c'est pour, voilà. Eh bien, c'est intéressant. Hein. Voilà. Maintenant, dans la Bible, il y a comme ça des petits enseignements par rapport à l'argent. Mais à un endroit, il y a deux chapitres complets. Allez, donner, 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 avec pression. Et souvent, les églises aussi, même au moment de l'offrande, citent des fois des versets de là. Je vous le cite. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bon, à part ça, c'est très intéressant hein, donc, de souligner que si on donne, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de loi, mais que ce soit librement. Hein, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et puis, des fois, on dit, bon, ben, y a, voilà, ben, donner avec joie, hein, sinon ça ne sert à rien. Seulement, des fois, on détourne un peu la parole. Si on regarde cet enseignement qui est donné sur les chapitres 2 Corinthiens 8 et 9, c'est pour des pauvres. Il y a eu une collecte qui a été organisée par des gens qui n'étaient pas très riches, des églises en Macédoine, et puis ils ont eu à cœur, parce qu'il y avait effectivement des pauvres à Jérusalem, une église. Et là, ils ont mis le paquet, et puis c'est là qu'il est dit, mais mettez chaque dimanche matin de côté, amenez l'argent, etc., pour cette offrande. Et moi, des fois, je suis un peu triste quand j'entends, pas chez nous, mais parce que des fois, je vais un petit peu aussi voir ailleurs sur YouTube, de voir comment on prend des versets de la Bible et on ne les applique pas là où elles s'appliquent, mais on l'applique pour nous. Il y aurait d'autres exemples, mais bon, on va laisser tomber. Voilà. Après, il y a encore d'autres versets. Hein. Galates 2, 6. Ils nous ont seulement... Ah voilà, ben, on est toujours avec cette collecte des pauvres. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu soin de faire. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres à Jérusalem. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, ça c'est 1 Jean, si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Bon, voilà, maintenant c'est un peu une liste de versets que j'ai donné, c'est peut-être un peu fatigant, mais on se rend compte que, voilà, c'est l'enseignement de Jésus. On veut être disciple, écoutons ça, j'entends, et ne disons pas ce qui n'est pas dit. Voilà, ça c'est un peu... Et, moi, je vous dis, il y a un peu plus d'une année, j'avais fait ce survol, puis je me disais, tiens, c'est quand même étonnant. Et mais je me suis dit, je partage ça avec vous. Et puis, faites-en ce que vous voulez. Mais je sais que vous voulez être disciple du Seigneur. Et il y a beaucoup d'autres thèmes, hein, parce que Jésus a dit, enseignez tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est une chose, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Alors, ce matin, je vous ai un peu cassé les pieds. Avec ce thème-là, c'est un enseignement... Et puis, que Dieu vous bénisse. Voilà. Amen. Bah, je prie quand même, hein, Seigneur. Merci, c'est vrai, c'est souligné. Tout ce qu'on a vient de toi. Ça ne vient pas de nous. Si on est même ici en Suisse, il y a ceux qui sont en Suisse parce qu'ils sont nés en Suisse, il y a ceux qui sont venus parce qu'ils sont venus de loin en Suisse. Mais ce n'est pas nous. On est là. Et si nous, on est dans un bon pays, quand même, c'est un pays riche quand même, même s'il y a des pauvres. On se soutient, il y a une solidarité. Merci Seigneur pour ça. On ne veut pas cracher dans la soupe. C'est une bénédiction, mais on veut aussi se souvenir, Seigneur, des pauvres en tant qu'Église. Amen.